Le Conseil constitutionnel déboute l'association Un cœur, une voix qui avait déposé une QPC dans sa décision. La haute juridiction reconnaît que le gel du corps électoral va à l'encontre des principes d'égalité et d'universalité du suffrage, mais il affirme qu'il est conforme à la Constitution. Un homme entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessé à la tête jeudi soir dans le secteur de Ploume. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits qui sont intervenus dans un contexte de rixe entre personnes fortement alcoolisées. Plus d'une centaine de policiers rassemblés devant le commissariat de Tourcoing en métropole. Mobilisation contre la remise en liberté de deux suspects dans l'affaire de l'agression d'un de leurs collègues de la BAC. Les syndicats de salariés lancent un ultimatum au Premier ministre Sébastien Lecornu. Et s'il n'entend pas leurs revendications, ils seront de nouveau dans les rues la semaine prochaine. Le sport, le football, c'est parti pour la cinquième journée du championnat de France de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais recevait Angers ce matin en match d'ouverture. Les Lyonnais sont imposés 1-0. Et puis en Calédonie, c'est un samedi de finale. En football, Tiguet et Magenta s'affronteront pour la Coupe territoriale au stade du Madélé. En rugby à 15, confrontation cet après-midi entre le RC Mondor et l'Olympique de Nouméa. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Le Conseil constitutionnel a valide le gel du corps électoral tout en reconnaissant qu'il va à l'encontre des principes d'égalité et d'universalité du suffrage protégé par la Déclaration des droits de l'homme. Il a rendu hier soir sa décision après le dépôt d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité par l'association Un cœur, une voix. Michael Juneski.
Le Conseil constitutionnel a débouté l'association Un cœur, une voix qui défend les exclus du droit de vote et qui avait déposé donc une QPC pour contester la constitutionnalité du gel du corps électoral. Dans sa décision, la haute juridiction affirme que le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie est bien conforme à la Constitution. Le Conseil relève d'abord que le premier alinéa de l'article 77 de la Constitution confère une valeur constitutionnelle aux orientations de l'accord de Nouméa qui déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle de droit commun. Il rappelle ensuite que le gel du corps électoral est issu de la réforme constitutionnelle de 2007 dont l'objet était précisément d'indiquer que pour les élections au Congrès et aux assemblées de province, le corps électoral est non seulement restreint mais également gelé en 1998. Le Conseil juge enfin que ce cadre constitutionnel ne peut être considéré comme caduc parce que si le pouvoir constituant parle de disposition transitoire, il ne leur a pour autant pas fixé de terme. En conclusion, le Conseil constitutionnel indique, et je cite, que dès lors que les dérogations au principe d'égalité et d'universalité du suffrage étaient prévues par la Constitution elle-même, les dispositions contestées ne sauraient être jugées contraires à la Constitution.
En clair, Michael, le Conseil constitutionnel reconnaît que le gel du corps électoral va à l'encontre des principes d'égalité et d'universalité du suffrage, mais qu'il est inscrit dans l'accord de Nouméa, qui est lui-même constitutionnalisé.
Le Conseil constate en quelque sorte que l'accord de Nouméa est une exception qui intègre des dérogations au principe d'égalité et d'universalité du suffrage pourtant inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais comme l'accord de Nouméa est inscrit dans la Constitution, ces dérogations ne peuvent pas être déclarées inconstitutionnelles. Il précise toutefois, et je cite, que des modifications pourront être apportées aux dispositions transitoires définissant ce corps électoral dans le cadre du processus d'élaboration de la nouvelle organisation politique prévue par l'accord de Nouméa. Ces modifications devront, selon le Conseil, tenir compte des évolutions de la situation démographique de la Nouvelle-Calédonie et atténuer ainsi l'ampleur qu'auront prise avec l'écoulement du temps les dérogations au principe d'universalité et d'égalité du suffrage.
Fin de citation. Et cette décision du Conseil constitutionnel déçoit l'association Un cœur, une voix, mais ce n'est pas vraiment une surprise, nous a dit son président Raphaël Romano.
Bien évidemment, on est déçu. On n'est pas surpris, on est déçu de la façon dont la décision est rendue. On espérait un peu plus de courage de l'institution qu'on a saisie. Ça n'a pas été le cas, mais c'était prévisible. On n'est pas surpris.
Alors, quels sont les arguments qu'invoque le Conseil constitutionnel ? Pour faire simple, il dit le gel du corps électoral n'est pas constitutionnel, mais il est constitutionnalisé.
En fait, c'est ça. Le Conseil constitutionnel reconnaît les atteintes aux principes démocratiques. Il dit clairement, il juge le fond, donc c'est son rôle également. Le Conseil constitutionnel doit juger ce qui est constitutionnel ou ce qui ne l'est pas. Là, il dit le gel du corps électoral est inconstitutionnel, mais comme c'est écrit dans la Constitution, alors c'est constitutionnalisé. C'est terrible. Donc il choisit de ne pas agir. C'est une forme de déni de justice et c'est vraiment un manque de courage.
Et maintenant que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, il existe plusieurs voies de recours, explique Raphaël Romano, la dernière étant la Cour européenne des droits de l'homme.
Il y a plusieurs recours à effectuer. Le premier, c'est de revenir aux institutions qu'on avait déjà saisies. On a saisi le Conseil d'État et on a saisi la Cour de cassation. C'est difficile de comprendre tous les éléments juridiques quand on est à l'intérieur de la procédure, donc j'imagine bien la complexité de le comprendre pour les auditeurs et pour les Calédoniens qui ne suivent pas totalement le dossier. Pour faire simple, le Conseil d'État a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel parce qu'il estimait qu'il y avait à redire sur le gel du corps électoral. L'institution de la Cour de cassation a également transmis au Conseil constitutionnel pour dire « il y a quelque chose à revoir, ce n'est pas normal que le gel du corps électoral perdure en Nouvelle-Calédonie ». Donc, il y a une vraie contradiction entre les différentes juridictions, et c'est ça qu'on va soulever. Donc on va faire et produire des écritures au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour dire « vous avez transmis la question prioritaire de constitutionnalité parce que vous estimiez que c'était légitime de la transmettre au Conseil constitutionnel ». Le Conseil constitutionnel, lui, botte en touche et dit « c'est écrit dans la Constitution, donc c'est comme ça ». Donc on va demander en premier lieu aux instances Conseil d'État, Cour de cassation de se prononcer et de juger, parce qu'ils n'ont pas jugé, les deux institutions-là n'ont pas jugé, elles ont transmis au Conseil constitutionnel. Donc une fois qu'elles auront jugé, on aura épuisé toutes les voies de recours prévues et on ira à la Cour européenne des droits de l'homme.
Raphaël Romano au micro Radio Rythme Bleu d'Elisabeth Noir. Et pour dégeler le corps électoral, il y a aussi bien sûr la possibilité de modifier la Constitution pour y intégrer un nouvel accord politique, comme cela devrait être le cas avec l'accord de Bougival. Au chapitre des réactions, dans un communiqué signé par Dominique Fauchy, le FLNKS se réjouit de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Le FLNKS qui rappelle qu'en démocratie, les élections se tiennent à l'heure et exige donc de l'État français prenne les dispositions nécessaires pour convoquer les élections provinciales avant le 30 novembre 2025 et appelle tous les indépendantistes à une participation massive dans les urnes. Réaction également dans un communiqué du MNIS et qui écrit, et je cite, « rien ne sera dégelé et surtout rien ne peut empêcher les élections provinciales de se tenir en temps et en heure le 30 novembre 2025 au plus tard, à part un coup de force macroniste ». Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, alors que 10 jours après sa nomination comme Premier ministre, Sébastien Lecornu n'a encore pas annoncé la composition de son gouvernement. 71% des auditeurs d'Erreur B qui se sont exprimés par SMS souhaitent que Manuel Valls conserve le ministère des Outre-mer. Ils sont 29% à souhaiter à l'inverse un changement du ministre des Outre-mer. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Une personne grièvement blessée à la tête jeudi soir dans le secteur de Ploume sur la route du Sud. Le procureur de la République indique qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur les faits et déterminer qui est l'auteur du coup de feu, Michael Juneski.
Selon les premiers éléments de l'enquête, une rixe est intervenue entre trois hommes fortement alcoolisés. L'un d'eux est alors monté dans son pick-up et il s'est montré extrêmement agressif et menaçant. Une patrouille de gendarmes mobiles qui circulait sur la route du Sud à ce moment-là a entendu des hurlements. Les gendarmes sont descendus de leur véhicule et ils ont constaté une manœuvre violente du conducteur du pick-up qui a percuté un pylône en béton en donnant des coups d'accélération avant de se diriger vers le véhicule de la gendarmerie. À l'approche du pick-up, un gendarme mobile a tiré deux coups avec son arme de service, le premier dans la calandre, le second qui a atteint le pare-brise. Le conducteur du pick-up n'a pas été touché mais il a pris la fuite et il a été interpellé dans la soirée à son domicile au Mont d'Or. Peu après, un homme âgé de 32 ans et domicilié à Ploume a été découvert inconscient sur la voie publique. Il a été admis au Medipôle et son pronostic vital est engagé. Il ressort des premières constatations médicales, la présence au niveau de la tête de plusieurs fragments dont l'origine n'est pas déterminée à ce stade. Le procureur de la République précise qu'un témoin a indiqué que la victime aurait voulu jeter une pierre contre le pick-up. Elle se trouvait sur le côté latéral du véhicule et à l'opposé par rapport à la position du gendarme. Le procureur indique qu'à la suite de ces faits, deux personnes ont été placées en garde à vue, le conducteur du pick-up et le gendarme mobile. Le premier doit répondre des chefs de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique, de mise en danger de la vie d'autrui et de refus d'obtempérer. Le gendarme mobile est suspecté quant à lui de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et avec usage d'une arme. Lors de sa garde à vue, il a expliqué qu'il avait voulu stopper le conducteur du véhicule en raison de sa dangerosité et qu'il avait tiré dans le moteur puis dans le pare-brise. Il a précisé ne pas avoir remarqué la présence derrière le pick-up de la personne découverte blessée sur la route. Il a ajouté qu'il s'estimait en danger immédiat, tout comme ses deux collègues, par la trajectoire du véhicule en leur direction.
Le procureur de la République qui ajoute que les investigations se poursuivent pour déterminer les causes exactes des blessures de la victime au moyen d'expertises médico-légales et techniques et pour vérifier les conditions d'usage des armes par le gendarme. Il tient également à souligner que ces faits sont intervenus dans un contexte de rixe entre compagnons de boisson, sans aucun lien avec d'éventuels troubles à l'ordre public ou un rassemblement organisé par certaines communiquées. Les faits divers avec cette violente scène, c'était mercredi à la mi-journée dans une résidence pour seniors à Nouméa. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de deux jeunes femmes majeures pour tentative de meurtre sur personne vulnérable, vol aggravé et violence aggravée. Les deux jeunes femmes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Un homme jugé hier en appel devant la cour d'assises des mineurs. L'an dernier, il avait été condamné à 5 ans de prison pour des violences en réunion sur un parking de Dimbéa en 2022, entraînant une infirmité permanente de la victime. Il était accusé d'avoir empêché la victime de fuir et d'avoir filmé la scène. Hier, lors de l'audience, le ministère public a requis 8 ans de prison, comme en première instance. L'homme a finalement été condamné, comme en première instance, à 5 ans de prison. Des perturbations constatées hier sur la route de Saint-Louis. Une marche de levée de deuil s'est déroulée une bonne partie de la journée. La route a été bloquée par les gendarmes quelques temps afin de laisser passer le cortège. En fin de journée, 4 véhicules, dont un bus, ont été caillassés sur la RP1. Et cette nuit, la gendarmerie, entre 2h et 3h du matin, a bloqué la route lors d'une intervention des forces de l'ordre. Une personne a été interpellée. Et puis un nouveau décès sur les routes calédoniennes. Un homme de 75 ans est mort hier après un choc entre son véhicule et un camion au niveau de Forêt-Noire à la fois. L'accident s'est produit vers 10h45 dans le sens nord-sud. La victime a été dans un premier temps amenée au dispensaire de la foi, mais dans l'après-midi, des complications se sont déclarées. L'homme est décédé durant son transfert vers le Médipôle. Ce décès porte à 25 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année. C'est le grand rendez-vous du week-end en brousse. On va prendre encore une fois la direction du nord de la Calédonie. La 31e édition de la foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord a ouvert ses portes, vous le savez, hier. Mais c'est bien ce matin qu'elle a été officiellement inaugurée. Reportage Kélinda Boicou.
Après les discours d'ouverture sur le champ de foire, les visiteurs et les officiels présents ont pu assister au défilé des super champions, taureaux et génisses et des chevaux, des associations des rodéomanes de Nouvelle-Calédonie qui participeront ce soir au rodéo nocturne, des véhicules en En début de cortège, les jeunes du RSMA de Koumac, une fierté pour le lieutenant-colonel Faldoni Réveillan, le directeur du RSMA de Nouvelle-Calédonie.
Traditionnellement, nous sommes présents sur ce défilé et la compagnie de formation professionnelle de Koumac, qui est la principale concurrente à l'organisation de cette foire, ouvre ce défilé chaque année. Ce qui me marque en premier lieu, c'est le bien-vivre qu'on voit se manifester ici sur cette foire depuis hier et qu'on continuera de voir jusque demain soir. Et ce que je note en particulier, c'est l'investissement de nos jeunes du RSMA qui, par volontariat, décident de concourir à l'organisation de cette foire pour le bien-être de tous ici et pour l'accueil des visiteurs en particulier. Et puis cette année, nous sommes présents avec nos différentes filières de formation professionnelle qui sont là pour montrer leur savoir-faire, que ce soit dans le secteur primaire, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine de la sécurité également, puisque nos pompiers et nos agents de sécurité civile sont présents pour le bien-être de cette foire.
Pour Gérard Perrault, le commissaire délégué de la province Nord, il est important d'être présent à cette manifestation.
Pour moi, il était important d'être aux côtés des organisateurs, du maire, du RSMA, des chambres consulaires, des élus et surtout de toutes celles et tous ceux qui participent activement à cette magnifique foire. Je crois que le maire de Koumac et le Nord envoient un signe important aujourd'hui à ce moment que traverse la Nouvelle-Calédonie et c'est un message réconfortant à la fois sur un plan économique et puis sur un plan du bien vivre ensemble. Donc il me paraissait important d'être là aux côtés des organisateurs.
Est-ce que vous avez pensé de ce défilé pour l'ouverture officielle ?
Ah, magnifique, magnifique. Ça donne une idée du mal que se donnent les gens pour élever des animaux, pour concourir, pour prendre soin de ces bêtes et puis le défilé du RSMA aussi qui nous a tous marqués. Non, franchement, une très belle foire et j'invite vraiment tous les Calédoniens à venir ce week-end à Koumac pour y passer un excellent moment. En plus, on a la chance d'avoir une météo clémente, donc venez nombreux.
Au programme ce matin, une dégustation de viande locale, un concours de barbecue ou encore une démonstration de tente de mouton. Pour les visiteurs, c'était une découverte.
Ben, on va regarder la démonstration de tente de mouton.
Je voulais remercier.
C'est la première fois. Première fois qu'on va assister, oui. C'est bien, ça nous fait découvrir autre chose, quoi. Et il nous a expliqué plein d'astuces, plein de trucs sur le mouton, là, avec la laine. C'est impeccable.
Là, elle est mise complètement en confiance. Normalement, elle ne devrait pas te donner coup de sabot, tu vois, un truc comme ça. C'est la méthode, en fait, qui veut ça. Le fait qu'elle soit sur ses assises, sur ses fessiers.
Il est en train de tendre un mouton. D'abord, il place la barrière pour envoyer les moutons. Ensuite, il envoie les moutons sur la table. Moi, je le tiens et après, il attrape le mouton et il le tend.
C'est bien, ça permet de montrer un peu comment on fait. Je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Ouais. Bah, il est en train de passer la tondeuse sur le mouton, sur la brebis là.
C'est bien parce que vu que l'année dernière il n'y en avait pas, donc là c'est un plaisir de revenir. Non, on regarde justement parce que comme j'ai la petite nièce qui est là, elle aime bien les animaux, donc voilà, on regarde aussi. Bah, là il y a les ponts, les canards, les poules, la tonte du mouton, donc voilà, c'est sympa à regarder.
Hier, la soirée s'est clôturée par l'élection de Miss Foire de Koumac et du Nord. Elles étaient 5 candidates entre 16 et 20 ans à s'être présentées. Eva Roumagne, élue Miss en 2023, a remis sa couronne à Maëlle de Villers.
La Miss Foire de Koumac est du nom Maëlle de Villers.
Bah, j'étais surprise, hein, c'était un peu suspect, mais ouais, c'est une surprise pour tout le monde aussi.
Comment t'es venue l'idée de participer?
Ah, c'était sur un coup de tête. Pourquoi pas? Je me suis dit un jour, pourquoi pas? Si eux, ils ont droit, pourquoi pas moi?
Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être élue Miss Foire de Koumac et du Nord aujourd'hui?
Ah bah, je suis contente, je représente déjà la commune de Ponérewen, où j'habite, et la commune de Koumac, qui est la province Nord. Je suis trop fière.
La journée se clôturera par le karaoké géant et le rodéo prévu à 19h30. Kélinda Boicou du Champ de Foire de Koumac, Radio Rythme Bleu.
Merci Kélinda, vous le savez, Radio Rythme Bleu a un stand sur la foire de Koumac où nous allons retrouver en direct le maire de la commune, Wilfried Weiss. Bonjour monsieur le maire.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct depuis la foire de Koumac. Dans tous les reportages que nous propose Kélinda Boicou depuis hier, on entend que des gens heureux de se retrouver à Koumac. C'est le sentiment que vous avez également depuis l'ouverture de cette foire hier?
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Kélinda. Je pense que dans ce complexe économique tendu, la foire représente plus qu'un simple événement. Mm-hmm. C'est l'illustration de la volonté de chacun d'aller de l'avant et de croire en l'avenir. Donc, quand on a vu ce matin les gens arriver, c'est un grand réconfort pour le comité de foire qui a organisé cet événement. Parce que vous savez, après une édition qui a été annulée l'année dernière, c'est difficile de reprendre.
C'est bien aussi que les agriculteurs, notamment, je pense à eux, mais aussi l'ensemble des exposants, retrouvent finalement le public du Grand Nord et peut-être même d'ailleurs en Calédonie, hein, parce que ce n'est pas que les gens du Nord qui viennent vous visiter à Koumac ce week-end. Hein.
Tout à fait. Et c'est vrai que ce matin, on a vu quand même un grand pourcentage de gens de Koumac, mais aussi de Ouégoua, de Koné, de Vaud, donc de la province Nord. Mais on a espoir et c'est vrai qu'on a vu aussi des gens du Sud. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans les exposants qui sont venus, notamment pour le concours bovin, etc., on a eu beaucoup de gens du Sud qui sont venus. Donc ça, c'est réconfortant. Ça veut dire que les gens ont encore confiance et qu'ils ont envie de venir dans le Nord. Alors c'est vrai que la foire de Koumac, elle est particulière. Hein. C'est une foire qui est conviviale, voilà, où tout le monde se rencontre, tout le monde se partage des choses. On voit des gens qui se retrouvent, voilà, qui s'embrassent. C'est vraiment, je crois, la foire, une foire pluriethnique. Et où il fait bon vivre et il fait bon se rencontrer.
Monsieur le maire, quels vont être les grands rendez-vous de la journée? On parlait du rodéo tout à l'heure à 19h30, ça attire toujours la foule.
Voilà, donc ce soir, il y aura le grand rodéo nocturne, je pense. Donc ça, il y a pas de souci, ça va être encore un grand moment. Mais juste avant le rodéo, il y a aussi une présentation de danse et de danse avec du feu, etc., d'une équipe tahitienne qui est là. Donc voilà, après, bon, il y a les différents concours de chevaux cet après-midi. Mm-hmm. Vous savez, c'est toujours il y a eu le stock des collines ce matin qui a été spectaculaire, mais cet après-midi, il y a du stock à plat, etc., qui attire beaucoup de monde aussi.
Merci beaucoup à Wilfried Weiss, monsieur le maire de Comac, d'avoir été en direct avec nous depuis le champ de foire, le stand Radio Rythme Bleu, cette foire de Comac que nous allons continuer de suivre, bien voilà, évidemment, tout au long de ce week-end. Merci Wilfried Weiss.
Voilà, et moi je voulais surtout remercier RRB d'être avec nous pour couvrir ces événements. Et puis, vous avez de super animatrices qui sont avec nous, donc on peut que les féliciter. Donc, vous savez, nous, on est toujours contents quand on voit le bleu, blanc, rouge flotter chez nous à Comac.
Merci beaucoup, Wilfried Weiss. On vous souhaite une bonne journée sur le champ de foire. Merci d'avoir été avec nous. Ce week-end, il y en a donc pour tous les goûts côté animation. Comac célèbre, on vient d'en parler, sa 31e foire agricole et artisanale. C'est tout au long de ce week-end. Et puis, aujourd'hui, le ukulélé résonne du côté du Mont d'Or pour la fête qui lui est consacrée. C'est au parc Paul Bloch de Ploum depuis 10h ce matin et ça va se poursuivre tout au long de l'après-midi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est midi et 22 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal.
Envie de nouveautés pour le retour du soleil? Ça tombe bien! La nouvelle collection Gémeaux Les Beaux Jours vient d'arriver en magasin. Que vous soyez plutôt style bohème, chic ou classique, vous trouverez votre bonheur avec les nouvelles tendances à prix accessibles et ce, pour toute la famille. Alors, à bientôt chez Gémeaux.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Jusqu'au 17 octobre, gagnez un séjour de rêve à l'hôtel Coulnoé Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour 2 personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez chance au 4020. L'hôtel Coulnoé Village vous accueille toute l'année dans un cadre à couper le souffle en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 4020. Tirage au sort le vendredi 17 octobre à 14h. 371 francs le SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Et on retrouve la suite du journal avec vous, Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole est le parquet antiterroriste qui a confirmé ce matin que les autorités palestiniennes ont arrêté Hicham Harb, l'un des suspects de l'attentat de la rue des Rosiers qui avait fait 6 morts et 19 blessés. C'était en 1982 à Paris. L'arrestation de cet homme de 70 ans ouvre la voie désormais à sa comparution devant la cour d'assises spéciale de Paris. Encore faudra-t-il qu'il soit extradé. À 3 jours de la reconnaissance d'un état de la Palestine devant l'ONU par la France, cette arrestation est saluée par Emmanuel Macron. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Emmanuel Macron salue ce qu'il appelle une excellente coopération avec l'autorité palestinienne. Le président français se félicite d'un pas supplémentaire pour le droit et la vérité. Nous travaillons ensemble à une extradition rapide, précise-t-il après l'arrestation à Ramallah de ce suspect de l'attentat de la rue des Rosiers. Le calendrier ne doit rien au hasard. Ce sont de bons offices dans le cadre de la reconnaissance d'un État de Palestine à l'ONU, confie une source diplomatique à Europe 1, car cette arrestation a une conséquence très concrète. Une extradition n'est possible possible qu'entre États, tant que la France ne reconnaissait pas officiellement la Palestine. La procédure restait bloquée malgré les relations déjà entretenues avec Mahmoud Abbas. Cette étape pourrait donc permettre de débloquer la coopération antiterroriste. Mais une incertitude demeure. La reconnaissance française prévue lundi ne suffira pas à créer un État palestinien à part entière. Seule l'ONU en a le pouvoir et les États-Unis ont déjà promis d'y opposer leur veto.
Arthur Delaborde du service international d'Europe 1. Des policiers ont manifesté à Tourcoing dans le Nord, mobilisation la nuit dernière pour dénoncer la remise en liberté des agresseurs présumés d'un policier de la BAC. Le fonctionnaire avait été lynché il y a 8 jours. Son passage à tabac avait été diffusé, vous le savez, en boucle sur les réseaux sociaux. Cette nuit, les policiers étaient nombreux à soutenir leurs collègues, mais surtout à exprimer leur ras-le-bol. Maximilien Carlier pour Europe 1.
Applaudissements et prises de parole en uniforme ou en civil. Une centaine de policiers rassemblés sur le perron du commissariat de Tourcoing, tous exaspérés après la remise en liberté des principaux suspects dans l'affaire du lynchage du policier de la BAC, Olivier Gallet, délégué syndical Unité à Tourcoing.
Le but, c'est montrer notre colère, notre désarroi face à la libération des individus agresseurs du collègue qui n'a pas une réponse pénale ferme, c'est-à-dire l'application de peine plancher. Voilà pourquoi on est là. Et nous, on veut marquer le coup.
Car cette décision de justice est un mauvais signal envoyé aux policiers, poursuit-il. Et c'est un deuxième coup dur pour le fonctionnaire passé à tabac, explique Frédéric Manchot. C'est le secrétaire départemental adjoint Alliance dans le Nord.
Psychologiquement, il était dans un état déjà pas trop bien. Mais aujourd'hui, en fait, suite à la libération, c'est très, très compliqué pour lui de revivre cette situation en sachant que les auteurs sont dehors. Il se dit qu'il a mangé des coups et pour rien puisqu'ils ont été libérés comme ça. Donc ça l'affecte fortement.
Son arcade est encore toute gonflée et vire au bleu, déplore ce syndicaliste. Dès lors qu'on touche à un des nôtres, cela doit être directement la casse-prison, selon lui.
Maximilien Carlier, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Actualité sociale en métropole et les syndicats qui ne désarment pas après la mobilisation du 18 septembre, lors de laquelle 500 000 personnes ont manifesté un peu partout en France. L'intersyndicale s'était donné rendez-vous tôt ce matin pour nous au siège de la CGT. Il s'agissait de réfléchir aux suites potentielles à donner à ce mouvement. Verdict, un ultimatum lancé au Premier ministre Sébastien Lecornu. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
L'intersyndicale veut battre le fer tant qu'il est chaud. Plusieurs centaines de milliers de Français sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère. Les leaders syndicaux envisagent donc de nouvelles journées d'action, sauf si Sébastien Lecornu, qui va les recevoir, accède à toutes leurs revendications. Un ultimatum annoncé par le secrétaire confédéral de la CGT, Thomas Vacheron.
Si d'ici le 24 septembre, il n'a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider d'une nouvelle journée de grève et de manifestation.
Le problème, c'est que le virage réclamé au Premier ministre est monumental. Dans le catalogue de revendications, l'abandon du doublement des franchises médicales, mais aussi de l'année blanche sur les retraites ou les aides sociales. L'intersyndicale réclame enfin l'abandon du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Face à cette liste de revendications budgétairement insoutenables, Sébastien Lecornu a deux options. Intégrer une mesure à son budget en espérant que l'intersyndicale s'en contentera ou miser sur un essoufflement de la mobilisation.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. En bref, à l'étranger, 3 avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien de l'Estonie il y a quelques heures. C'est ce qu'annonçait le ministre des Affaires étrangères de ce pays balte, membre de l'Union européenne et de l'OTAN. L'incursion des avions à deux chasses MiG-31 de la Fédération de Russie s'est déroulée au-dessus du golfe de Finlande. L'Estonie qualifie l'acte d'une audace sans précédent. L'Italie, qui assure depuis le mois d'août pour l'OTAN la police de l'air dans les pays baltes, a fait décoller ses F-35 pour intercepter ses chasseurs russes. Il est midi et pratiquement 30 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal dans un instant. L'actualité sportive.
Du 17 au 21 septembre, c'est les jours complètement waouh dans vos magasins Auchan Auteuil et Auchan Kéferi. Avec votre carte de fidélité, profitez chaque jour de 5% de cagnottage supplémentaire sur un rayon différent ou sur nos produits Auchan. 5 jours, 5% de cagnottage en plus, waouh, ça vaut vraiment le coup. Détails de l'offre à retrouver sur les pages Facebook des magasins Auchan, le bon moins cher.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là! Encore plus belles, encore plus goûteuses, avec un parfum unique et une qualité exceptionnelle. Ce week-end, on se donne tous rendez-vous aux fraisiers de Païta. Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là!
Une bonne nouvelle, les fraises de Païta sont en promotion tout le week-end. Les fraisiers de Païta, 3 points de vente au 6e kilomètre, aux fraisiers de Païta et en face de la pharmacie de Sainte-Marie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec l'actualité sportive.
Et on va commencer avec du football et c'est parti pour la 5e journée du championnat de France de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais et le SCO d'Angers ouvraient le bal ce matin et ce sont les Lyonnais qui se sont imposés une victoire 1-0 pour les Gones qui prennent provisoirement la 2e place du classement général. Suite de cette journée demain et lundi matin pour nous, à suivre demain Nantes-Rennes, Brest-Nice et Lens-Lille sur la pelouse des 100 et Or, Félix Bollard pour le grand derby du Nord. Et puis lundi matin, la 5e journée s'achèvera par le grand duel, le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Arrête de raconter n'importe quoi, Sabo. Sur les terrains de rugby, ce sera l'heure de vérité ce soir pour le 15 de France dames. Les Françaises affronteront les Anglaises en demi-finale du Mondial. Pour les Bleus, ce sera un match aux aires de finale avant l'heure face aux grandes favoris de la compétition sur les terres du 15 de la Rose féminin. Le 15 de France dames reste sur une impressionnante série de 16 défaites face aux Anglaises. Pourtant, on veut y croire du côté des Français. Écoutez Marine Ménager qui endossera le rôle de capitaine de l'équipe de France.
Si on se base que sur des statistiques dans le sport, je pense qu'on se trompe complètement. Encore plus la magie du sport de très haut niveau, c'est qu'il y a des matchs qui sont complètement différents où les statistiques ne comptent plus. C'est du 50-50. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, on veut la gagner à tout prix et peu importe l'adversaire qu'on aura ce week-end en face de nous.
Et l'autre demi-finale opposait tôt ce matin pour nous les Néo-Zélandaises aux Canadiennes et ce sont les Canadiennes qui se sont imposées. Victoire 34-19.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Le sport mécanique, la Formule 1, 17e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries sont à Bakou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et la Scuderia Ferrari espère bien repartir de l'avant dans un championnat du monde dominé par les McLaren. D'ailleurs, lors des essais libres, c'est Lewis Hamilton qui s'est montré le plus rapide, juste devant l'autre monoplace de la Scuderia, pilotée par le monégasque Charles Leclerc. Charles Leclerc qui compte sur une bonne qualification pour se mettre dans les meilleures positions avant le Grand Prix.
C'est une piste que j'aime beaucoup et partir premier, ça nous aiderait beaucoup pour dimanche. Donc on va essayer d'avoir ça comme objectif et ensuite par contre essayer de repartir enfin avec la victoire ici.
Et notez que la qualification sera à suivre ce soir. Le Grand Prix ce sera demain, départ à 22h heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
On passe au rendez-vous sportif sur le territoire avec tout d'abord du football et la finale de la Coupe de la Calédonie. Un rendez-vous au sommet entre l'AS Magenta et Tigasport. En finale, les deux équipes s'affronteront à partir de 16h. Ce sera au stade du Madélé. Le vainqueur de cette finale de la Coupe de Calédonie de football entre Magenta et Tigasport obtiendra son billet pour le 7e tour de la Coupe de France. 7e tour qui se jouera à domicile contre une équipe de métropole. Autre finale, celle du championnat territorial de rugby à 15 qui opposera le rugby club du Mont d'Or, invaincu cette saison à l'Olympique de Nouméa, habitué des grands rendez-vous. Coup d'envoi de la rencontre à 17h, ce sera au stade Philemo Simutoga à Rivière-Salée. Notez qu'à 15h, l'Union Rugby Club de Dimbéa et le CREC s'affronteront pour la petite finale. Et puis, l'Arène du Sud devient aujourd'hui le royaume des jeunes basketteurs. En marge des matchs du championnat, l'association Edjo, créée pour rendre hommage à Mimi Castex, décédée en 2021, a mis en place des actions pour les jeunes. Une fierté pour Pierre-Olivier Castex, le fils de Mimi.
Ça fait plaisir de vous voir depuis 8h ce matin. Des jeunes qui parcourent les terrains de basket. Une journée consacrée justement à la mémoire de notre papa. Grâce à l'association Edjo qui, comme chaque année, essaie de commémorer sa mémoire en organisant des petites activités. Remercier la Ligue de basket d'avoir justement permis à l'association de pouvoir s'intégrer justement à ce tournoi senior et jeune. C'est une nouvelle fois encore cette année une fierté pour nous, la famille.
Et des centaines de jeunes sont impliqués dans ce rendez-vous qui continue jusqu'à ce soir. C'est à l'Arène du Sud de Païta. Il est midi et 35 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 13h. Bel après-midi, à tout à l'heure.